France Culture.
Question d'islam par Ghaleb Benchir. Aujourd'hui, nous parlons d'une notion, d'un mot, d'une idée, d'une attitude à avoir, de l'adab, un mot quasi intraduisible en langue française, un mot si polysémique en langue arabe qu'on ne peut pas le ramener uniquement en le rétractant à un seul sens. Et pour évoquer ce que sous-tend cette idée de l'adab, j'ai plaisir à accueillir le professeur Denis Grille. Cher professeur Denis Grille, bonjour.
Bonjour.
Bonjour et merci de nous faire l'amitié de nous donner de votre temps. Et surtout, et je tiens à le dire à nos amis auditeurs, vous êtes à Aix-en-Provence et grâce à l'application Reportit, nous vous entendons très bien. Et vous êtes surtout professeur émérite à l'université d'Aix-Marseille, membre de l'IREMAM, qui est l'Institut de recherche et d'études sur le monde arabe et musulman. Vous êtes islamologue, un fin connaisseur du soufisme. Et vous allez, si vous voulez bien, nous parler de l'adab. Alors, son acception moderne renvoie plutôt aux belles-lettres, à la littérature, au pluriel « adabiyat », ce sont les belles-lettres. La faculté de l'adab en langue arabe renvoie à la faculté de l'être. Mais le mot est beaucoup plus profond que cela. C'est la bienséance, le savoir-être, le savoir-vivre, la convenance, la politesse, la courtoisie, tout cela réunit. Pouvez-vous nous parler de cette attitude juste et a fortiori, nous le verrons ensemble plus tard, dans la tradition spirituelle islamique?
Comme vous l'avez rappelé, le sens courant du mot adab, c'est plutôt la littérature et dans l'islam, la civilisation islamique classique, la culture des lettrés, les belles lettres. Et c'est ce que j'avais appris quand j'étais effectivement étudiant d'arabe à la Sorbonne. Parallèlement à ça, j'avais déjà commencé à travailler sur la littérature du soufisme et j'avais été frappé de l'occurrence extrêmement fréquente de ce terme d'adab pour parler des relations entre les êtres, on peut dire entre les hommes entre eux-mêmes et dans le contexte du soufisme en particulier la relation du maître et du disciple. Et aussi, de manière générale, aussi dans la littérature du hadith, de la tradition musulmane, hein, les adab, c'est toutes les règles de savoir-vivre qui sont enseignées, peut-être dans le Coran de manière globale, mais surtout dans la tradition, dans la sunna, qui règle les relations entre les hommes. Donc je me suis dit qu'il fallait creuser un peu cet aspect de l'adab qui n'était pas enseigné à l'université. Et donc c'est pour ça que j'avais, à l'époque, il y a maintenant plus de 50 ans, produit une maîtrise qui s'appelait à l'époque quelques documents sur la notion d'adab, où j'avais surtout traduit des extraits de différents textes de l'islam et surtout du soufisme pour mettre en valeur cette notion justement d'attitude juste en toute chose vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis des hommes. Et dans les pratiques en général, la vie du musulman face à son Seigneur, mais avec ses semblables, avec ses frères, et dans la communauté, et donc qui régissait, une notion régissant évidemment toutes les relations sociales entre les personnes, aussi bien que les relations avec Dieu et avec certains êtres en particulier, dans le cas du soufisme, particulièrement les relations entre le maître et le disciple.
Vous dites aussi qu'en réalité, cette notion de adab renvoie à la délicatesse, à faire preuve de tact et avoir cette attitude juste, mais qu'en aucun cas et d'aucune manière, on ne doit la traduire par l'humanisme. Ça pourrait être à l'extrême rigueur l'honnête homme, selon la définition que nous en faisions déjà au XVIIIe siècle, même si nous n'y étions pas, mais ce n'est pas nécessairement, l'adab n'est pas nécessairement l'humanisme.
On a établi une relation entre l'adab de l'époque, à la grande époque de la civilisation musulmane, et par une forme d'analogie avec l'humanisme tel qu'il se développe après la Renaissance, avec cette idée de savoir encyclopédique, car effectivement l'adab, les grands maîtres de la littérature arabe, n'est pas seulement l'excellence d'un style, mais c'est aussi vraiment tout un ensemble de connaissances qu'il faut savoir dire à bon escient. Et donc, ça se rapproche effectivement un peu de la notion d'honnête homme au XVIIe siècle, mais c'est oublier cette dimension religieuse et spirituelle qui est profondément ancrée dans la tradition musulmane et qui fait que l'adab dans la pensée musulmane a une autre signification que simplement culturelle.
Ah oui,
plus lié à la connaissance de l'âme, au fond.
Oui, c'est ça le plus important, et nous progressons petit à petit, si vous voulez bien. Là, on essaye, en gros, j'essaye avec vous, de cerner un peu le champ sémantique du mot en tant que tel, et comment peut-on le traduire, sans toutefois le limiter, en français. Et lorsque l'homme de bonne éducation, d'ailleurs c'est ce qui donne adib, et la femme de bonne éducation est adiba, à la fois homme de lettres ou femme de lettres, mais aussi de bonne manière. Et ça a commencé très tôt dans la civilisation islamique avec la dynastie Omeyyade.
La notion d'adab est très liée aussi à la notion de akhlaq, c'est-à-dire les vertus, les caractères, les vertus, et on voit ça très bien chez les premiers, on peut dire, les premiers grands oudabas de la tradition arabo-musulmane, qui sont les kuttab, les secrétaires de chancellerie, qui ont été un peu les premiers vraiment à fonder une tradition de littérature. Mais comme par exemple Abdelhamid el-Khatib, le maître d'Ibn al-Muqaffar, dans sa Risala il al-Kutab, où il écrit une épître pour donner des conseils à ses semblables, sur ses secrétaires de chancellerie, qui devait évidemment savoir bien écrire, mais aussi savoir se tenir en présence des grands de ce monde, et avoir une éthique aussi de comportement entre eux. L'adab chez lui est vraiment, avant tout, c'est une notion à la fois de d'excellence dans la manière de dire et d'écrire les choses, mais c'est aussi une excellence dans la manière d'être avec ses semblables. Donc une dimension éthique très très forte, qui fait que l'adab, c'est une manière d'être. C'est un savoir-vivre sur un plan un peu extérieur de la politesse, mais c'est aussi avant tout une manière d'être, savoir être avec chaque être, chaque chose comme il se doit.
Alors, il y a aussi cette idée que l'adab, c'est aussi l'enseignement de la discipline de l'esprit et des belles qualités de l'âme. Adab, ça reste donc cet enseignement d'une discipline louable. Et c'est comme ça qu'il doit être compris. Néanmoins, ici, il n'y a aucune restriction dans le néanmoins, le verbe yu'addibu est plutôt corrigé au sens plus que rectifié. C'est corrigé au sens d'éduquer et parfois, s'il le faut, d'une manière drastique.
Oui, mais j'ai un peu travaillé sur cette question, sur les premières occurrences de l'adab et surtout du verbe addaba, justement. Dans le hadith, donc dans la tradition musulmane, dans la tradition prophétique, et dans les générations qui suivent, et où le verbe addaba, plutôt que le sens de corriger, ça a ce sens-là, mais ça a surtout le sens d'éduquer, de former, en relation avec le langage. L'adab, c'est aussi bien savoir bien parler, et c'est aussi éduquer. Éduquer, et l'éducation précède finalement la transmission du savoir. traditions selon lesquelles, effectivement, les disciples de l'imam Malik, par exemple, un des premiers grands savants de l'islam, au deuxième siècle de l'Hégire, ses disciples disaient de lui, il nous a appris l'adab avant la science. Donc, pour recevoir la science, il faut être dans une prédisposition, on peut dire, à la fois intellectuelle, mais aussi, on peut dire, intérieure, pour recevoir la science et faire que la science soit quelque chose de bénéfique, non seulement un savoir, mais aussi quelque chose de bénéfique pour l'âme. Donc il y a toujours cette dimension dans l'adab tel qu'il est employé chez les auteurs du début de l'islam et qu'il sera encore plus développé dans la tradition du soufisme ultérieurement.
Et si je devais me hasarder dans une définition, si je puis dire, apophatique ou négative, une personne sans adab devient comme un corps sans esprit ou tout simplement comme un mot sans signification.
L'adab, c'est ce qui fait, ce qui donne la valeur aux personnes. Une personne sans adab, effectivement, est un être qui ne profite de rien et qui n'apporte aucun profit à personne, en quelque sorte. Parce que justement, l'adab, c'est ce qui permet de communiquer, en fait, oui, et de transmettre quelque chose, comme il faut, en fonction de la personne à laquelle on s'adresse.
Et il y a cette idée aussi qu'il n'est de plus bel ornement que le adab, puisqu'on utilise le terme sans nécessairement le traduire, alors que la noblesse acquise par son propre mérite, pour celui qui n'a pas justement ce adab, c'est comme s'il n'a pas, à proprement parler, des qualités humaines élevées, voire pour l'homme, c'est comme s'il n'avait pas de qualités viriles.
Oui, avec cette nuance que le hasab, qu'elle nous fait allusion, donc ce qu'on peut acquérir comme mérite, peut être corrigé, justement, l'adab s'apprend. On peut être formé, justement, à l'adab. Donc, celui qui, au départ, n'a pas beaucoup de mérite, en acquérant l'adab, en se formant, peut parvenir, justement, à la noblesse de ceux qui ont ce prestige, disons, lié à leur origine. C'est toute une éthique, c'est toute une éthique de progression, soit sur le plan simplement humain en général, ou dans le contexte de la culture ou de la science, et puis ça prendra vraiment une dimension évidemment dans le soufisme beaucoup plus intérieure.
Et donc je disais que le meilleur exemple ou le parangon, ou celui qui a une attitude paradigmatique du adab, pour la tradition religieuse islamique et dans sa veine spirituelle, est le prophète de l'islam. Et si je devais revenir au verbe « addaba », c'est lui-même qui dit « c'est Dieu qui m'a formé » dans le sens d'instruction et de formation. Et là, le mot « adab » devient le fait d'être élevé dans tous les sens du terme, et d'être formé.
Alors, c'est cette tradition, c'est mon Seigneur qui m'a formé, ad-dabani, et qui m'a donné un excellent adab, enfin, arsan adabi, en fait, est en relation avec le Coran. C'est l'idée que le prophète a été formé par le Coran, et qu'au fond, la source de tout adab est le Coran, qui enseigne les vertus. Le prophète lui-même est dit, dans les premières révélations, tu es selon un excellent caractère, la khuluqin azim, et c'est, donc ça rejoint l'idée de l'éthique, et de la formation, le khuluq, c'est la forme intérieure de l'homme, en quelque sorte, par rapport au khalq, qui est sa forme extérieure, et donc cette idée que le prophète a été formé par le Coran, comme un disciple est formé par son maître.
Ce qui entre en écho avec cette idée que je n'ai été suscité ou envoyé que pour parachever la noblesse de la vertu.
Oui, les nobles vertus, les nobles caractères aussi, on peut traduire
on peut traduire
ce terme
comme ça.
Ce parachèvement a été compris justement comme le fait de ramener, c'était chez Ibn Arabi en particulier, de ramener tout caractère, qu'il soit même apparemment négatif, à une vertu positive, comme la jalousie, par exemple. Il n'y a pas de jalousie si ce n'est pour quelqu'un qui a des biens et qui les dépense, ou quelqu'un qui a reçu une science et qui l'enseigne. Donc la jalousie peut être quelque chose de peut devenir positive, hein, et c'est comme ça qu'on a compris cette idée de parachèvement des vertus par le prophète, qui montre comment on peut, en toute chose, même à partir de défauts, les transformer en vertus.
Si j'ai bien compris, d'abord il y a une nuance entre le fait d'être envieux et d'être jaloux, et dans certains cas, subsumer ou surmonter ou transcender les sentiments négatifs dus à la jalousie pousse à une forme d'émulation pour acquérir le savoir que peut avoir quelqu'un ou le prendre comme modèle. Et de ce point de vue-là, il y a un parachèvement des nobles caractères.
La dame, c'est l'idée au fond d'un perfectionnement continuel de l'âme, si vous voulez.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam, et aujourd'hui nous parlons de l'attitude juste, de la courtoisie, de la délicatesse, de la noblesse des vertus, du parachèvement des nobles caractères. Tout ce que je suis en train de dire se résume en un seul mot, arabe, l'adab, et tout particulièrement dans les relations de maître à disciple dans cette deuxième partie avec le professeur Denis Grille, professeur émérite à l'université Aix-Marseille. Et pour cette deuxième partie, cher Denis Grille, comment peut-on cette fois-ci restreindre, si je puis dire, le sens de l'adab uniquement dans les relations de maître à disciple?
Alors, je crois qu'il ne s'agit pas de le restreindre, c'est un des aspects de l'adab dans sa signification spirituelle, mais ce n'est pas le seul. Déjà à l'époque, quand j'ai fait cette maîtrise sur l'adab, qui vient maintenant à publication bien des années après, je m'étais inspiré de deux chapitres de l'œuvre principale d'Ibn Arabi, les Futuhat al-Makkiya, les révélations de la Mecque, sur le maqam, donc la station, et l'état de l'adab. Et dans ces deux chapitres, Ibn Arabi divise l'adab en quatre catégories. D'abord, l'adab de la loi, tout ce qui est enseigné par Dieu dans la révélation et ensuite par le prophète. Ensuite, ce qu'il appelle l'adab el-khidma, l'adab du service, qui est au fond un développement de l'adab de la loi, mais particulièrement orienté justement vers le fait de se mettre au service d'un autre, et ce qui inclut évidemment les relations entre le maître et le disciple et le maître, hein, ou le disciple avec le maître, et les condisciples entre eux aussi. Et donc, avec tout ce que ça implique de respect, d'attitude respectueuse vis-à-vis de l'autre, hein, aussi bien le maître vis-à-vis du disciple, qu'il ne doit pas considérer comme inférieur à lui, mais qui doit avoir justement celui par lequel justement il réalise sa maîtrise spirituelle, hein, et à l'inverse évidemment pour le disciple par rapport au maître, hein, avec la vénération du maître qui est la voie, hein, sur le modèle de la vénération qu'avaient les compagnons pour le prophète lui-même, hein, qui le met sur la voie, justement, de la voie vers Dieu.
Et il y a une troisième catégorie.
Alors, la troisième catégorie, c'est ce qu'Ibn Arabi appelle Adab al-Haq, l'adab de la vérité ou du droit de chaque chose, en considérant que chaque chose a son haq, c'est-à-dire son droit. Hein, elle doit être respectée pour ce qu'elle est dans, on peut dire, dans l'ensemble de la manifestation, faut dire. Hein, c'est une notion très large. Hein, et l'adib, l'homme parfaitement, qui a parfaitement réalisé l'adab, Ibn Arabi le qualifie de ima'a, hein, c'est-à-dire celui qui est avec... Alors c'est un terme qui est négatif en arabe, qui veut dire celui qui avait avec tous les hommes, comme ceci veut qu'il soit. En fait, il le voit comme justement celui qui est en relation avec chaque être selon son haq, ce qu'il exige de lui, de par son statut, de par les circonstances, voilà, dans lesquelles il le rencontre. Hein, donc ça se ramène à une idée sur laquelle Ibn Arabi revient souvent, c'est que et qu'on retrouve déjà dans le soufisme avant lui, qui est l'idée que l'adab est le fait de réunir tout bien. Sur le plan, disons, culturel, on peut dire l'adab en tant que les belles lettres, c'est une connaissance encyclopédique, à la fois littéraire et encyclopédique, qui fait qu'on est dans de bonnes relations avec ses semblables, comme un honnête homme. Mais sur le plan spirituel, c'est être avec chaque être comme voilà celui-ci l'exige de par son statut dans l'existence. Et la quatrième sorte d'adam, c'est...
Pardonnez-moi, cher Denis Grill, avant d'arriver à la quatrième catégorie, ce troisième point avec la notion... nous utilisons des termes arabes qu'il faut peut-être expliquer à nos amis auditeurs. L'imma'a, et vous-même avez dit que ça a pris une connotation négative, c'est le fait d'être suiveur, d'être avec tout le monde, voilà. De dire ce qui plaît aux uns et aux autres, mais avec exigence qui est le fait de donner à chacun son dû, son droit. En réalité, ce n'est pas si négatif que ça.
Ibn Arabi lui donne, oui. Ibn Arabi lui donne une signification positive, justement. Pour essayer d'expliquer ce que c'est, qui est le parfait adib, le parfait celui qui est qualifié de l'adab, c'est justement celui qui sait être avec toute chose. Selon ce que ces choses exigent par rapport à lui, par rapport à sa situation dans l'existence. Hein, il donne comme un exemple très simple, c'est-à-dire quelqu'un qui est âgé ne doit pas déconsidérer quelqu'un qui est plus jeune s'il est savant, parce qu'il doit le respecter en tant que savant. Hein, même si, en tant que personne âgée, il doit être respecté en tant que personnage âgé, à partir du moment où un jeune homme est plus savant que lui, il doit le respecter pour sa science. Voilà. Tenir compte du statut des êtres et de la qualité spécifique de chaque être. Et c'est vrai, dans la perspective d'Ibn Arabi, pas seulement pour les relations humaines, mais pour les relations avec l'ensemble de la création.
Et le quatrième type, si alors, j'ose dire, ou la quatrième catégorie,
ben, en fait, c'est le dépassement de l'adab, si vous voulez. Parce que l'adab, c'est implique une dualité. C'est être, d'une certaine manière, avec quelqu'un. Voilà. Et or, dans la perspective, évidemment, de la réalisation spirituelle, le but de la réalisation spirituelle, c'est s'éteindre en Dieu, hein, donc disparaître en tant qu'individu, hein, pour être par Dieu, hein, et s'éteindre en Dieu pour être, ou être en permanence par Dieu. Hein, et donc, à ce moment-là, effectivement, l'adab disparaît, hein, comme la neige fonde au soleil, hein, parce qu'il n'y a plus, comme dit Ibn Arabi, avec qui, hein.
Voilà. C'est-à-dire l'âme humaine s'anéantit, fond, coalesce dans une conscience unique et cosmique.
Oui, mais alors Ibn Arabi emploie aussi cette idée de renoncer à l'adab, si vous voulez, parce qu'il y a des moments où l'adab peut devenir un peu formaliste, hein, et que ce qui compte, c'est d'être dans une relation, d'être à travers les eaux, dans une relation directe avec Dieu. Et dans certains cas, il faut apparemment manquer d'adab pour un meilleur adab. Il nous donne un exemple très simple. Il dit qu'il était avec un certain nombre de ses disciples hein, quand il était en Andalous, hein, et que ceux-ci étaient complètement contractés par une vénération excessive pour lui, voyant en lui le maître par excellence. Hein, et voilà. Et à ce moment-là, l'excès d'adab, on peut dire, était nuisible à l'adab. Et il demande, il dit à quelqu'un, il met son pied sur le contre un de ses disciples. Et il dit, mais non, gratte-moi. Donc il les détend complètement en manquant d'adab, si vous voulez, parce que c'est pas une attitude évidemment très très très,
très respectueuse, convenable, oui.
Hein, très convenable. Mais justement, c'est pour rompre. Donc l'adab n'est jamais formel, n'est jamais figé. C'est ce qui est intéressant dans cette notion, c'est qu'elle n'est extrêmement englobante et toujours en perfectionnement.
Oui. Alors
l'adab n'est pas un ensemble de savoir-vivre figé. Hein. C'est une manière d'être dans l'existence, avec chaque être, voilà, selon son...
Bien sûr.
Et c'est une voie de connaissance. C'est une voie de connaissance, c'est ça qu'il faut bien voir aussi, c'est que l'adab, et il y a un autre adab, en quelque sorte, donc Ibn Arabi ne fait pas rentrer dans ces catégories, mais qui peut entrer dans les catégories de l'adab avec le droit de chaque chose, c'est que dans la manière de parler de Dieu aussi, il y a un adab spécifique, voilà, et dont le Coran lui-même est donne le modèle. Quand il donne l'exemple, par exemple, de la parole d'Abraham, quand il dit lorsque je suis malade, c'est lui qui me guérit, en parlant de Dieu, oui. C'est un adab parce qu'il s'attribue à lui-même la maladie et à Dieu la guérison.
Oui.
Alors que du point de vue de la réalité essentielle des choses, c'est Dieu à la fois qui rend malade et qui guérit. Mais l'adab des prophètes, qui est donc l'adab de la révélation, c'est au fond de s'attribuer à soi-même la maladie et à Dieu la guérison, donc à soi le mal et à Dieu le bien. Et ça, ça correspond aussi à des prières, enfin des formules qu'on trouve dans la tradition prophétique. Toute une manière d'être, je pense que c'est important dans l'adab, si vous voulez, surtout pour la jeunesse musulmane, qui souvent n'a pas été très bien éduquée.
Oui.
Il faut dire les choses. Hein. C'est quelque chose qui doit harmoniser les relations entre les êtres et le monde. Avec Dieu, bien sûr.
Je voudrais expliquer d'abord à nos auditeurs que si nous chevauchons par moments, c'est parce que vous êtes loin et vous êtes à Aix et que vous n'êtes pas présent dans le studio. Et c'est par l'application Reportit que nous conversons. Et puis, si vous me le permettez, je reviendrai sur l'acception moderne ou contemporaine ou quasi académique du mot adab qui renvoie aux belles lettres et à la faculté quand on étudie les lettres. Mais en réalité, c'est le but de l'émission, c'est qu'en dehors de politesse, courtoisie, bonne éducation, raffinement, bienséance, convenance, délicatesse, il y a une courtoisie divine, il y a une façon d'être spirituelle qui renvoie à la notion de adab. Et je voulais vous poser la question sur les actes dévotionnels dans la pratique cultuelle, qui sont aussi dans les œuvres d'adoration sous-tendues par la notion de l'adab, aussi bien la prière que l'aumône, que tout autre acte dévotionnel.
Alors effectivement, c'est toute une partie importante de ce que les maîtres spirituels ont écrit sur l'adab, c'est de montrer comment les rites et les pratiques de manière générale ont une dimension à la fois extérieure, il y a un adab extérieur, dans la prière il y a un certain nombre de règles à respecter, à observer, hein, mais que ces règles extérieures sont en réalité... une attitude intérieure qui fait que le rite est accompli aussi bien extérieurement qu'intérieurement. Ce sont les adabs au pluriel, on appelle le mot adab au pluriel, les adabs extérieurs, l'adab al-dhahira et intérieur, batina. Et alors, il y a toute une littérature dans le soufisme sur la manière de pratiquer la prière du point de vue extérieur et intérieur, surtout. De même, le jeûne, l'aumône. Donc, dans cet texte, j'ai traduit un certain nombre d'extraits d'ouvrages du soufisme où on développe justement, en complément, si vous voulez, il y a dans les traditions musulmanes, il y a à la fois la jurisprudence, le fiqh, qui définit le statut spécifique de chaque des règles qui président à la pratique des rites et à la pratique de relations sociales aussi. Dans toutes ces règles-là, il y a toujours cette dimension intérieure qui relève de l'adab, ou disons que la jurisprudence pourrait être définie comme un ensemble de règles à respecter, dont des adabs extérieurs, qui sont en correspondance avec des adabs intérieurs, qui sont évidemment le sens même de ces rites, puisqu'ils sont destinés à conduire l'homme vers l'adoration de Dieu, et que cette adoration, elle ne peut être véritablement qu'intérieure. Sinon, c'est ce simple ensemble de gestes ou de paroles qui n'ont pas de valeur véritable. Voilà donc la dimension un peu légale de l'islam, si vous voulez, ne peut se réaliser que par l'adab.
Thank you.
Alors, nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam et aujourd'hui, nous parlons de l'adab, cette notion que le professeur Denis Krill nous explique. D'abord, parce que le mot lui-même est très polysémique et il renvoie à plusieurs sens. Et surtout, la présence de l'adab à la fois comme harmonie, comme bienséance, comme convenance, comme délicatesse, comme courtoisie, comme politesse, dans la progression spirituelle. Et pour cette dernière partie, il y a quelques modalités de la courtoisie divine. Le premier formateur pour un croyant, c'est Dieu lui-même, à travers notamment la révélation. Mais qu'est-ce cette notion de pudeur divine ?
Cette notion de pudeur divine vient d'une tradition prophétique où le prophète raconte que le jour de la résurrection, Dieu aura honte de châtier un homme âgé qui avait prétendu avoir fait des choses et n'aurait pas fait, mais par respect pour son grand âge, il lui pardonne et le fait rentrer au paradis. Donc c'est une manière très anthropomorphique de montrer que le respect qui est dû aux gens âgés a son fondement dans le divin.
Oui.
Comme toutes les vertus, là c'est exprimé en termes très... très simple et anthropomorphique, c'est Dieu se présente lui-même comme un homme qui a honte de quelque chose. Mais il y a bien d'autres traditions, où le prophète aussi parle de Dieu pour évoquer la miséricorde divine. Il montre une femme qui allaite des enfants et en disant à ses compagnons, celle-ci va jeter son enfant au feu pour faire comprendre que la miséricorde divine est irrésistible en quelque sorte et embrasse toute chose en parlant de Dieu comme d'une mère pratiquement. Voyez.
Donc, oui, oui.
Mais ça c'est le langage prophétique qui n'est pas celui des théologiens qui eux sont très soucieux de la transcendance. La transcendance va de soi pour le croyant en quelque sorte. Et le fait de parler de Dieu de cette manière-là, ce n'est pas un manque d'adab, justement, c'est au contraire respecter l'adab de Dieu lui-même, qui parle dans le Coran de lui-même comme d'un homme, finalement, de cette manière. Quand il se met en colère ou qu'il est satisfait, après tout, ce sont des attitudes humaines.
Bien entendu, tout le débat...
Et donc, l'adab englobe cette manière de parler de Dieu.
Et donc, l'adab est aussi nécessaire dans la progression spirituelle. Avant même, en croire Ibn Arabi, qu'à un moment donné, il faudrait s'en affranchir.
C'est une voie de connaissance, l'adab, si vous voulez, puisque c'est au fond, voir en toute chose... la face de Dieu, d'une certaine manière, et d'avoir, de ce point de vue-là, une attitude qu'il faut vis-à-vis de ces choses, de cet être. Et donc, c'est une voie d'attitude, mais c'est aussi un mode de connaissance. Et ça revient, si vous voulez, à l'idée qu'Ibn Arabi rappelle souvent dans ses œuvres, l'idée que l'adab, c'est ce qui réunit, au fond, tout le bien, comme le Coran lui-même, finalement. Cette notion-là rejoint, effectivement, l'adab dans sa signification plus courante, de belles-lettres, d'humanisme, ou d'encyclopédisme, mais en le liant à la révélation.
Oui, et que dire alors, parce que je ne résiste pas à poser la question, à ceux qui délibérément, pour atrophier leur ego, en quelque sorte éduquer, si tel est l'idée voulue par eux, les malamatis, les gens du blâme, ceux qui agissent d'une manière qui n'est pas conforme, a priori, aux règles de bienséance, pour s'attirer les foudres de ceux qui, finalement, vont leur reprocher cette attitude. Et ça leur apprendra à ne pas être imbus de leur personne.
Oui, mais ça, c'est une manière un peu, je dirais, c'est les malamatis un peu extérieurs, un peu, qui attirent sur eux le blâme pour éduquer leur ego. Mais, là encore, vous permettrez de me référer à mon maître, Ibn Arabi, pour lui, au contraire, les vrais malamatis, ou les vrais malamis, plutôt, sont les muta'addibun et muta'sharri'un, c'est-à-dire ceux qui respectent parfaitement la dame en toute chose et la loi en particulier. Donc c'est ceux qui se fondent dans le moule de la loi et qui respectent tout ce qui a été institué par elle et par le la loi divine et par le prophète même et qui s'effacent ainsi et qui cachent leur sainteté, on peut dire, en apparaissant comme des êtres ordinaire, la dame à ce moment-là, c'est l'intériorisation de la signification de la loi et donc la connaissance en fait de la révélation et de la tradition prophétique intériorisée et qui conduit donc à une attitude de discrétion de cette manière. Parce que la dame, c'est quand même avoir une attitude de respect de l'autre et de ne pas se mettre en avant et au contraire, donner à l'autre toute sa valeur.
Et que dire
en s'effaçant soi-même.
Oui, voilà. Oui, oui, Denis Grill.
Et c'est ça, pour Ibn Arabi, le sens même de la dame, au fond, des malamatis ou des malamis, comme il dit plus tôt.
Enfin, on le dit pour nos amis auditeurs.
Qui se voilent sur le. Qui cachent leur réalisation spirituelle sous le voile de la loi, en quelque sorte.
Oui. Encore une fois, pour nos amis auditeurs et pour nos amis auditrices, les malamis, les malamatis sont ceux qui s'attirent un peu le blâme dans une volonté. D'atrophier en quelque sorte leur ego. Et vous nous avez donné l'explication, notamment chez votre maître, quand vous dites si bien par-delà le temps, maître Ibn Arabi. Et quelle est la différence, à supposer qu'elle puisse être comme ça exclusive l'une de l'autre, entre un adib, donc un homme de bienséance, un homme au comportement convenable, sans être savant, et le savant sans être adib, à supposer que ce soit aussi le cas, quelqu'un qui n'a pas pu bénéficier de son savoir. Le premier serait celui qui prend la meilleure partie de toute chose et en fait un ensemble, une sorte de synthèse, une des définitions justement de l'adab. Et le second, le savant sans cette harmonie et sans cette bienséance, serait celui qui se propose de connaître une partie de la science et il sait qu'il ne connaît qu'une partie de la science.
Un savant qui ne serait pas adib, ça veut dire qu'il n'a pas véritablement profité intérieurement de sa science.
Oui.
Parce que s'il est vraiment savant, s'il a reçu la science de la révélation, de la tradition prophétique, s'il a été formé pour ça, à la fois extérieurement et intérieurement, il ne peut pas ne pas être adib. Et
un adib peut pratiquer le ihsan, le bel agir, la bienfaisance, l'excellence du comportement.
Alors, dans mon petit texte là, qui s'appelle Adab, l'attitude juste en islam sur le maître de la voie. Je donne l'exemple je donne un extrait de Razali à propos des mu'amalat, c'est-à-dire des transactions, si vous voulez, entre les hommes, dans du point de vue de la loi, où il n'emploie pas tellement, il entend moins le terme d'adab que le terme de ihsan. l'Ihsan, donc c'est le fait d'agir sous le regard de Dieu, on peut dire, selon la définition du prophète lui-même, le bien agir. Donc, l'Ihsan est une notion connexe, on peut dire, de l'adab. Plutôt employé dans le hadith, dans la tradition prophétique, par rapport à l'adoration. Hein, donc c'est plus particulier, mais c'est aussi, au fond, un peu un équivalent de l'adab. Hein.
Et en parlant du adab, encore une fois, ça rend disponible à accueillir, parce que la sagesse, c'est aussi la proie, comme disent certains du croyant, il la saisit fermement là où il la trouve, et en étant adib, on est prédisposé à être sage au soir de sa vie.
Alors, la sagesse, dans la définition qui est donnée en général dans la tradition musulmane, c'est savoir mettre les choses à leur place. De ce point de vue-là, effectivement, il y a une relation entre la sagesse et l'adab, si ce n'est que l'adab représente la mise en pratique, on peut dire, de cette sagesse. Dans les relations, parce que l'adab est toujours une relation, hein, que ce soit la relation avec Dieu ou sa relation avec les autres, avec les autres êtres du monde. Hein, et donc, comme c'est l'attitude juste en toute chose, la sagesse est une notion, on peut dire, englobante, hein, qui est aussi à un sens à la fois de connaissance, mais aussi de pratique.
Et de savoir assigner à toute chose sa place, et savoir la régir.
Et donc, l'adab peut apparaître comme une conséquence de la sagesse.
Ah, cette fois-ci, c'est l'adab qui est une conséquence de la sagesse, et non pas la sagesse comme une conséquence de l'adab. Ou c'est bijectif.
Oui.
Ça va dans les deux sens.
Oui, oui.
Alors peut-être, puisque nous arrivons au terme de l'émission... Oui, je vous en prie.
Oui, ce que je veux dire, c'est que ce qui semble important de comprendre à propos de l'adab, c'est que c'est la manière d'être avec.
Oui, cela va de pair.
Voilà, c'est la manière d'être avec, et qui suppose effectivement une connaissance, et en même temps une finesse, un tact, une sensibilité, une perception de ce qui convient à un moment donné, dans un lieu donné, avec une personne donnée. Donc c'est une notion extrêmement diffuse, on peut dire, dans la tradition musulmane, mais qui se traduit plus concrètement dans les relations entre les hommes, par cette idée que quelqu'un qui a de l'adab, c'est quelqu'un qui sait bien se conduire avec les autres. Hein, et quelqu'un qui manque d'adab, justement, qui est un grossier personnage. Voilà. Donc, c'est le sens le plus courant, on peut dire,
En gros, en anglais, on aurait pu musulmane. Dire, si vous me permettez cet anglicisme, c'est « to be rude ». C'est quelqu'un qui est grossier, qui manque d'éducation, et il est important que les familles, d'abord, mais aussi pour la jeunesse musulmane qui fréquente les mosquées, d'avoir des imams qui leur apprennent ces notions et ces règles harmonieuses de l'adab, au sens que vous avez défini, cher Denis Krill.
Oui, oui, bien sûr. Mais pour recevoir, pour inculquer l'adab aux autres, il faut d'abord l'avoir reçu.
Bien évidemment, celui qui n'a pas une chose ne peut pas l'offrir. Alors, cher Denis Krill, nous arrivons vraiment cette fois-ci au terme de l'émission, tout en vous remerciant vivement du temps que vous nous avez consacré. Je rappelle que vous êtes à Aix-en-Provence et que nous avons pu établir la liaison via l'application Reportit. Et chers amis auditeurs, vous retrouverez l'émission, comme toutes celles de la chaîne, sur le site de France Culture. Et vous pourrez la podcaster et la réécouter sur l'application Radio France. Vous retrouverez aussi les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. L'attaché d'émission est Thierry Beauchamp. La prise de son a été assurée aujourd'hui par Nadège Antonini. Et la réalisation est assumée par l'ami François Connac.